C'est pas pour dire. Une émission de la compagnie La Lune Rousse, présentée par Charles Cécile.
I still have a dream.
Au 21e siècle, qu'est-ce qui pousse encore les gens à dire ou à écouter des contes, des poèmes, des épopées, des histoires de bonnes femmes? Quand les déesses s'appellent Nintendo et que Midas change votre peau, autant du storytelling et des gestes barrières, de Netflix et du binge-watching au 21e siècle, quoi. C'est pas pour dire, mais... toutes ces histoires, à quoi ça sert? C'est pas pour dire, une enquête de Charles Cécile au pays des conteurs.
Salut, c'est Charles Cécile. Entre lac et colline, au cœur battant du Limousin, c'est là, au festival Parole de Conteur, sur les rives du lac de Vassivière, qu'Angèle Gauduchot a rencontré notre invité du jour. Quand on est conteur ou conteuse, on vient à Vassivière pour jouer dans ce lieu, qui ressemble à un Avignon du conte. On y vient aussi pour écouter, pour partager, pour croiser des histoires, des gens, des compagnons de route, des collègues de scène. C'est dans ce cadre, entre deux spectacles, au bord d'un lac, en fait, qu'Angèle a rencontré la conteuse Véronique de Miomandre. Venue de Belgique, Véronique compte pour les enfants comme pour les adultes. Elle joue le clown, sème de la poésie, en plein air, sur un plateau, auprès des anciens, dans les maisons de retraite. Elle a le goût du réel, telle une documentariste. Elle s'inspire du monde pour nous faire voyager, nous étonner, en donnant une autre lumière sur les choses, sur les gens. C'est le cas, par exemple, de son spectacle « Sous les néons du désir », né de ses rencontres avec des prostituées en Belgique.
On commence ?
Ouais.
Véronique de Miomandre, bonjour.
Bonjour, Agnès.
Ça va bien ?
Oui, super.
On est en plein soleil.
C'est bien.
On a mis de la crème et on profite.
Ah ouais, c'est bien.
On se retrouve au festival de Vassivière, dans une circonstance un peu particulière, c'est qu'on est là, pour une fois, complètement en vacances.
On parle de contes.
Du coup, on parle de contes.
Ouais. Voilà.
Hier, après la sieste comptée, on a discuté comme ça et tu m'as parlé d'un travail qui m'a beaucoup intéressée, qui est le travail que tu as fait sur les prostituées.
Ouais.
Alors juste, je vais revenir un petit peu en arrière. Toi, tu es conteuse, c'est ton métier.
À 100%.
Et tu fais ça depuis toujours bien.
Ouais, plus de 20 ans, quoi. 25, ans. Je crois, 25 ans.
Tu as fait un autre métier avant ou bien?
Ouais. Avant, j'étais analyste financier et auditeur interne dans une compagnie d'assurance internationale.
Rien à voir.
Non, rien.
C'est ça qui fait que quand on dit ah, vous faites quoi comme métier? Je suis conteuse. Comptable?
Ah ouais.
Non, comptable.
Ouais, voilà.
Ouais,
c'est vrai. Ouais, c'est vrai.
Et tu avais imaginé que ça existait, ce travail de conteuse?
Mais quand j'étais petite, moi, vraiment, je savais lire avant qu'on m'apprenne, tu vois. Tellement je demandais et tout ça. J'aimais lire et j'aimais les histoires. Et donc, c'était vraiment quelque chose de très important. Donc, quand j'ai eu 16 ans, j'ai commencé à, tu vois, le théâtre et tout ça. Puis, je me suis dit, mais tu peux pas vivre de ça. C'est pas possible, tu vois. Tu vas devoir charmer tout le monde pour montrer que... Non, je ne veux pas faire ça. Et donc, j'ai fait l'UNIF, tu vois, pour être autonome financièrement, comme une femme, tu vois.
Oui, oui.
Je voulais être une femme autonome.
Ouais.
C'était vraiment un truc,
ce truc
que je savais à 18 ans.
Non.
Non, voilà, tu vois.
Ouais, ouais.
À 18 ans, je voulais vraiment ça. Et donc, j'ai fait ces études-là. Et donc, je me suis retrouvée comme ça, avec, à la tête d'un poste important et tout. Puis, je me suis paralysée. Donc mon corps s'est paralysé, je me suis retrouvée à l'hôpital.
Ah ouais. Et au bout de combien de temps tu
j'avais 30 ans, je crois. Wow. J'avais 30 ans. Et là, je me suis dit, ça a été très très vite. Hein. C'était en mai que je me suis paralysée et en septembre, j'ai recommencé déjà des cours de déclamation.
T'as senti qu'il y avait un lien entre cette paralysie et le fait que tu te...
Ouais.
C'était pas l'endroit où tu allais pouvoir t'épanouir.
Mais je me suis dit, attends, si la vie peut comme ça s'écrouler en un petit moment, quoi, tu vois, un matin tu te réveilles, tu sais plus lever ton sourcil, et le lendemain, ouais,
tu t'es paralysée entièrement.
Oui, ouais. Et donc, si ça peut arriver comme ça, alors là, en fait, il y a urgence. Et s'il y a urgence, il faut se poser la question de qu'est-ce que tu es venu faire ? Et là, tout de suite, la réponse est venue. Je suis venue pour les histoires. Et là, j'ai même plus le temps de lire. J'ai plus le temps de rêver. Ça ne va pas. Je suis dans la mauvaise direction. C'est pour ça que je ne sais plus avancer. Et donc, c'est venu tellement clair que là, j'ai tout de suite réorienté, quoi, tu vois. Ouais. Très, très vite.
Du coup, ça a aidé ta décision, parce que c'est des décisions pas simples à prendre, ne serait-ce que d'un point de vue
financier.
Ouais.
T'as peur.
Ouais. Mais là, du coup, la peur est passée un peu derrière l'urgence.
Bah, non, voilà. Ouais. Il fallait plus plaisanter.
Oui, on plaisante plus.
Ouais.
On arrête donc, les conneries, on fait
ce qui est urgent, ce que tu es venu faire.
Et donc, tu as commencé à raconter.
Oui, vraiment. Et donc là, d'abord, je le dis, j'étais dans la déclamation, donc je disais les textes des autres avec beaucoup de cœur et tout ça.
Ouais.
Et puis j'ai été voir Micheline Denocq.
Oui, c'est vrai, il donnait des spectacles et aussi des stages en Belgique.
Oui, à la Montagne Magique, et puis je l'ai vu. Je me suis dit, mais c'est incroyable ce gars. Ah oui, mais évidemment, il raconte renard, mais il ressemble à un renard.
Oui, c'est vrai.
Oui, mais attends, là, il ressemble au coq.
Oui.
Mais attends, il ressemble au loup, là.
Oui.
Mais qu'est-ce qui se passe? J'ai besoin de comprendre, là. Alors, j'ai commencé des stages avec Michel. Ouais.
Et donc, t'as chanté.
Oui, et tout ça. Et c'était magique. En fait, j'ai trouvé tout à coup une famille, je trouve. Une famille d'imaginaire. Et c'était très important pour moi, ça. Ouais. Je me suis dit, ah ouais, mais ça, c'est des gens qui comprennent ce que c'est rêver, tu vois.
Ouais.
Rêver à voix haute.
Ouais, c'est ça.
Et c'était une délivrance pour moi, de me rendre compte que ça existait.
Donc, tu retrouves tes fonctions.
Ouais.
Tu peux à nouveau
doucement, en plusieurs... progressivement, hein. Ça m'a pris du temps quand même.
Ouais, ouais.
Et puis j'ai tout récupéré, j'ai eu beaucoup de chance. Et voilà, et puis j'étais de plus en plus dans cette voie-là. Et en fait, ce qui est marrant, c'est quand tu t'orientes vers une nouvelle voie comme ça, il y a tout qui vient à ta rencontre. Parce que tu es juste.
Parce que c'est juste, c'était tout bien aligné.
Oui,
comme il faut.
Tout aligné, voilà. Ouais. Et donc c'était étonnant, vraiment étonnant. Pour ça, je dis toujours aux gens qui ont peur comme ça, tu vois, d'aller vers où ils doivent aller. Que ça va venir, en fait, que tout va concourir, que tout va les aider, ils ne doivent pas avoir peur. Parce que moi, c'est vraiment ce que j'ai vécu, quoi. Tu vois ?
Répertoire privilégié. Est-ce que tu racontes des histoires que tu écris? Est-ce que tu racontes des contes traditionnels, des contes merveilleux, des contes qu'est-ce que tu racontes?
C'est vrai que je crois au début tout ça, j'ai raconté beaucoup de merveilleux. J'aime vraiment beaucoup beaucoup le merveilleux, tout ce qui est symbolique. J'aime vraiment beaucoup ça. Et mais progressivement, j'ai mélangé avec du récit de vie. Et donc ça, c'était quelque chose qui était vraiment important pour moi. Par exemple, quand je racontais dans les maisons de retraite, tu vois, je me disais, ouais, mais je vais le raconter, mais eux, j'ai envie d'écouter ce qu'ils ont à me raconter.
Tu racontes quelquefois, vous racontez à deux, là, souvent.
Avec Christian.
Avec Christian.
Oui, on raconte avec Christian aussi à deux. Et on mélange nos univers parce qu'on n'est pas du tout pareil. Quoi.
Oui, oui.
Donc ça, c'est vraiment très chouette. Et alors, ce qui est génial de raconter à deux, c'est que tout à coup, c'est extrêmement léger. C'est-à-dire que tu n'as pas de stress de raconter avec l'autre. Tu es tout à fait confiant et tu profites quand il raconte. Et puis alors, quand c'est ton tour, ben voilà, c'est comme un jeu. Donc il y a ce grand plaisir. Quoi. Et c'est plus toi, c'est cette entité mixte qui est extrêmement... permissive.
Là, vous êtes un duo de conteurs-conteuses, vous êtes aussi un couple. Mm-hmm. Est-ce que ça change quelque chose, tu dirais ?
Je sais pas, ouais, sans doute ça change. Bah, la confiance, du coup, est là, hein, donc ça, c'est quand même énorme. Ouais. Et puis, le fait qu'on a vraiment beaucoup de bienveillance l'un pour l'autre et beaucoup d'amour pour ce que fait l'autre, tu vois ?
Ouais.
Je pense que ça, c'est aussi... on compte là-dessus, on compte... Comment je raconte, je sais bien qu'il me regarde, tu vois, et qu'il aime ce que je fais, et réciproquement, tu vois. Donc, je pense que c'est... Oui, c'est comme... Tu découples toutes les forces, en fait. Hein, donc, c'est un grand, grand privilège. Ouais, moi, je crois que c'est un grand privilège de raconter ensemble et d'être en couple. C'est, ça nous a toujours apporté plutôt que retiré, quoi. Ah, oui, ça, c'est vraiment clair, tu vois.
Vous avez vu, je suis montée sur la pointe des pieds. C'est parce que un sujet comme celui-là, on l'aborde sur la pointe des pieds. Moi, mon premier rapport à la prostitution, ça a été la mère. Je veux dire, la mère du Nord. J'avais 10 ans et je revenais en train toute seule. J'étais très fière dans le compartiment. Et le wagon s'est arrêté, gare du Nord, quai numéro 12. Et le quai numéro 13 en bruxellois, c'est la rue d'Arscott. Et donc moi, j'ai vu les dames en vitrine. Et je me suis dit, waouh, elles sont belles. Mais pourquoi est-ce qu'elles sont en maillot alors qu'il n'y a même pas la mer ici? Et devant moi, il y avait un petit garçon avec sa grand-mère. Et lui aussi, il les regardait et il a dit à sa grand-mère, c'est qui, mamie, les dames là? Alors la grand-mère, elle a fait et puis elle a dit « Ce sont des dames lumières. » Et là, je me suis dit « Mais c'est ça! C'est ça qu'elles font dans la rue! Elles illuminent! C'est pour ça qu'elles sont si belles !» Alors, vous voulez que je vous raconte quoi? Par où commencer? Eh bien, ça, c'est mon portefeuille. Puis regardez, regardez comme ça fonctionne, il y en a déjà un. Oui, mon chéri. Alors, tu es mon rayon de soleil du matin. Qu'est-ce qui te ferait plaisir? Tu vois cette rue ici. Quand j'étais jeune, j'appelais ça la rue des vieilles putes. Eh ben voilà, maintenant j'y suis. J'en ai un, je l'aime beaucoup. C'est un fonctionnaire. Toujours petite cravate, petit veston et tout. Et là, il arrive. Et puis, il se met dans mon canapé, là. Et moi, je dois le prendre dans mes bras. Hein? Je le berce, hein? Ah ben, je lui dis, mon petit chou, mon petit loup, mon petit minou, mon petit chat. Toute la ménagerie passe. Et puis après, elle me dit « Maman, maman !» Alors, j'ouvre mon décolleté et je lui donne le sein. Et il tète, hein. Je sais pas ce qu'il boit, hein. Mais après ça, il est en super forme, hein. Je pensais à tous ces hommes qui venaient chercher un rayon de soleil sur la peau de Marilyn. Puis je pensais aussi à sa voix, à la façon qu'elle avait de les amadouer quand ils rentraient, quand ils ne parlaient même pas sa langue et qu'elle continuait à parler comme pour les rassurer ou comme pour se rassurer elle. Moi, la Vierge, elle me montre les yeux de ma mère au pays. Les yeux de ma mère quand elle reçoit le chèque que je lui envoie tous les mois. Moi, je mangerai de la merde pour que les yeux de ma mère y brillent.
Courts extraits de Sous les néons du désir, à partir de témoignages recueillis dans les quartiers chauds de Bruxelles. Véronique de Miomandre prête sa voix à celle que l'on entend rarement, les prostituées. Elle se raconte, avec humour ou avec douleur parfois. Elle parle d'un quotidien que l'on juge souvent de l'extérieur. Les hommes qui les abordent, les femmes qui les condamnent, les gestes mécaniques et les maquillages outranciers dès l'aube pour attirer les clients. C'est pas pour dire, à Vassivière, en compagnie de Véronique de Miomandre.
Alors tu disais, oui, il y a eu ce travail avec les personnes âgées dont tu disais on n'a pas tellement envie de les écouter a priori parce qu'elles représentent une partie de la vie qu'on voudrait bien pas voir et tout ça. Et puis hier, donc, tu me dis, j'ai fait un travail autour des prostituées qui sont aussi une partie de la vie ou des gens dont on parle pas beaucoup et qui... D'où c'est venu cette histoire-là ?
Écoute, je pense qu'au début, quand j'étais enfant, le train qui venait de la mer du Nord s'arrêtait dans la rue à côté des prostituées et on les voyait du train. Mmh. Et donc, petite, je les ai vraiment vues dans les vitrines et je posais des questions. Et donc ça, c'était quelque chose de très... voilà. Et j'avais aussi un oncle qui allait chez les prostituées, un vieil oncle, tu vois. Et alors, ça se disait en sous-main. Tu vois, les enfants, ils sont toujours bien malins pour faire traîner leurs oreilles.
Bien sûr, ils savent très
bien. Et d'entendre, ouais, il va chez les putes. Et d'entendre que dans la voix des hommes qui disaient ça, des hommes surtout, il y avait une espèce de dédain. Et en même temps, une espèce d'envie ou d'admiration. Cette espèce de truc mélange un peu craque, comme ça. Je sais pas, tu te dis, qu'est-ce qui se passe ?
C'est quoi ce truc ?
Ouais. Et toi, en tant qu'enfant, tu as envie de savoir, tu vois ? Tu te dis, il y a quelque chose là qu'on ne veut pas me dire. Et voilà. Et en plus, cet oncle avait une grande collection de tableaux. Il était juriste, c'était quelqu'un d'éminemment. Enfin, tu vois, il y avait ce mélange de trucs entre l'art, le savoir.
Et puis ce truc dont on se disait, mais c'est quoi ?
Ouais,
et
voilà.
Pourquoi ? Oui.
Ouais. Donc je pense qu'enfant, déjà, j'avais cette curiosité. Et de plus en plus, en tant que femme, j'ai voulu savoir, en fait, qu'est-ce qu'elle ressentait, pourquoi elle faisait ça. Est-ce que... Enfin, voilà, j'avais besoin de comprendre parce que je suis une femme et que j'ai besoin de savoir. C'est quelque chose de très particulier, intime, et j'avais vraiment besoin de comprendre. Et, en fait, alors du coup, je me suis mis à lire, mais c'était pas suffisant, tu vois. Donc, je lisais des témoignages, puis il y avait des trucs qui me faisaient peur, puis je me disais, bah non, mais c'est trop loin de moi, ça, c'est trop... c'est trop noir, c'est trop compliqué, c'est trop... trop dur.
Panthère, prends garde, il s'approche. De tes lèvres rouges sang, il s'accroche. Panthère, prends garde, que dans son désir il ne t'encage, qu'il ne t'enrage. Panthère, un jour, tu bondiras. Un jour, tu rugiras, panthère. Un jour, tu t'en iras pour fuir tout ça.
Et a sorti sa carte, brigade des mœurs. Moi, j'ai sorti ma carte, conteuse. Là, il m'a dit « Et vous racontez des histoires aux filles sous la pluie ?» J'ai dit « Non, 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 c'est plutôt elle qui m'en raconte. » La première fois, c'était un parking. Il y a une voiture qui est arrivée, je suis montée dedans. Je savais pas comment m'y prendre. Je paniquais, je faisais n'importe quoi. J'ai usé 3 préservatifs, le gars s'énervait. Et finalement, quand il a eu terminé, il m'a jeté dehors et il est parti avec mes vêtements, mon sac et sans me payer. Et moi, j'étais là en soutien et en bottes, en plein milieu du parking. J'ai pas honte de ce que je fais. Mais j'ai honte du regard des gens sur moi. Des femmes, des enfants, des hommes. Il y a des moments. Sale putain. Pute, d'accord. Mais sale, non. Les insultes, on n'en peut plus. Quand on est conteuse, il y a des trucs comme ça bizarres qui arrivent. C'est que tout à coup, il y a des histoires qui vous tombent dessus comme ça. Et là, cette histoire-là, c'est une histoire du Japon. C'est une femme qui s'appelle la Charmante. Mitsuki. À 8 ans, elle a été vendue par un oncle à la veuve Tsai. Elle vit là, dans le pavillon des plaisirs. Alors on l'a fait entrer et la Charmante s'est inclinée. Elle a pris le kimono, mais quand elle a entendu le nom du poète, Atsukiyo, j'aime tellement vos écrits. Le cri du canard sauvage fait trembler le vent du soir. Asseyez-vous. Elle a vêtu le kimono, elle a été chercher le thé, elle a servi le thé et ils ont bu. Ils ont surtout parlé poésie pendant toute la journée. Et à la fin de la journée, la veuve Tsai est arrivée et elle a dit « Votre admirateur suivant est là, la Charmante. » Alors le poète s'est excusé d'avoir pris tellement de temps et il est parti.
Sous les néons du désir, de ces récits intimes surgit une parole crue, décolletée et aussi profondément humaine, celle de femmes qui choisissent ou subissent et restent debout sous les néons. Anne-Gaël en compagnie de Véronique de Miomandre sur C'est pas pour dire, bien sûr.
Au moment où tu as commencé à lire, par exemple, tu avais l'idée que possiblement t'en ferais un spectacle ?
Non.
Non.
Je voulais juste savoir.
Oui, c'est ça.
Puis après, il y a un moment où je me suis dit, non, maintenant, ça suffit, ça va, là. Tu dois y aller.
Alors, comment ça s'est passé ?
Ben, quand même, j'avais un copain qui s'était fait assassiner, donc c'était quand même vraiment pas drôle du tout. Et au début, on s'est dit, mais qu'est-ce qui s'est passé ? Puis il a paru qu'il avait, il avait voulu sortir une fille de la prostitution. Et il s'est fait tuer. Donc ça, je me suis dit, bon, on rigole quand même pas vraiment avec ça. Et donc j'étais dans une assoce et je leur ai demandé, voilà, est-ce que je risque quelque chose ? Est-ce que tout ça ? Ouais. Et bon, ils m'ont dit, oui, tu risques beaucoup, tu vas te faire beaucoup...
Bousculer.
Beaucoup bousculer, et il y a beaucoup de gens qui vont te tomber dessus parce que tu traites ce sujet, c'est immanquable. Donc voilà, ça j'ai dit, bah, ça va, je peux porter. Ouais. Et puis ils m'ont dit, mais dans la rue ici, toutes les femmes, on les connaît, et donc voilà, tu peux aller, vas-y. Je dis, mais vous voulez pas m'en présenter une, allez, une qui est sympa,
pour débarrer,
tu vois. On dit, non, tu vas y aller comme une grande et c'est tout. Hein. Les hommes, ils font ça, toi, tu peux bien le faire.
Wow. C'était une asso qui faisait quoi ?
Alors c'était une asso qui faisait, qui défendait en même temps les filles si elles voulaient travailler, donc qui les aidait à continuer à travailler, mais qui les aidait aussi à sortir si elles voulaient sortir. Et donc c'est une asso qui avait des médecins, tu vois, qui distribuait du gel, des préservatifs, tout, et qui a pignon sur rue et qui est vraiment une très très belle asso, quoi, hein, vraiment au niveau de la défense.
Et donc tu vas dans la rue.
Ouais. Et là, voilà, t'es là et puis tu croises des hommes, hein, tu te dis, oulala, j'ai envie d'être transparente, là, moi, il ne faut pas du tout que... Enfin, c'est affreux, je leur fais concurrence, quoi. Et puis tu vois les femmes, et là, elles te regardent, et dans leurs yeux, tu te dis...
Elles se demandent ce que tu fous là.
Ah oui. Puis tu te dis, mais en fait, peut-être une femme qui a besoin d'une femme, elle fait quoi? Peut-être elle va là.
Bien aussi, oui.
Ouais.
Bien sûr.
Peut-être, donc, c'est pas si bizarre, en fait. Et donc, et puis j'en ai trouvé... Vraiment une, le premier regard, ça a suffi, tu vois.
Ah,
ouais,
tu t'es vraiment. Dit un peu.
Ouais, j'ai sorti mon cahier, je lui ai montré et tout ça, et elle m'a fait ça, et puis c'était parti. Bah, j'ai senti, j'ai pas expliqué. J'ai senti comme si ça pouvait être une sœur ou un truc comme ça. Enfin, bon, c'est après le coup que je dis ça, mais j'ai senti qu'elle n'allait pas me rejeter. Qu'elle avait le sourire facile, qu'elle n'était pas choquée. Enfin, il y avait un truc.
Et là, tu lui as dit, je ne viens pas coucher avec toi, je viens discuter.
Ouais, je voudrais te poser des questions. Est-ce que tu es dispo?
Et donc, il a fallu quoi, que tu payes quand même une séance?
Non,
pour,
elle ne m'a pas fait payer rien du tout. Oui, mais alors, j'étais dans la...
Ça aurait pu.
Oui, elle aurait pu, c'est vrai. Non, elle n'a pas été du tout comme ça, mais... En fait, elle avait une vitrine avec deux fenêtres. Il y avait un volet baissé et un volet levé. Et elle était devant le volet levé. Et moi, je lui posais des questions devant le volet baissé.
Ah, d'accord. Donc, vous pouviez être interrompue.
Oui, c'était ça, la catastrophe. Moi, je n'ai jamais pensé ça. On avait rendez-vous le matin. Elle avait dit, pendant que je me maquille. Donc, elle se maquille. Mais elle fait ça en vitrine.
Ouais.
Moi, je lui pose des questions. Puis, elle se marre. Mais en fait, le rire, c'est super attirant.
Oui, bien sûr.
Donc, il n'y a pas eu... Je sais pas, une demi-heure, il n'y a pas une demi-heure.
Ou il n'y a pas quelqu'un qui est...
Il y a un gars qui s'est pointé.
Ouais, bien sûr.
Et donc, elle m'a dit, bon, ben, écoute...
Faut s'interrompre.
Ouais. Mais ça va aller vite, hein, rapide. Donc, garde mes sous. M'a filé ses sous. Ah, j'avais ses sous en main, quoi, tu vois. Ben, me voilà bien, tiens.
Complice. La frangine pour de vrai.
Tu dis, bon, ben, voilà.
OK.
Et donc, elle avait mis la radio et tout ça. Donc, j'étais cool. Il n'y avait pas de bruit, tu vois. Donc, voilà, mais j'entendais sa voix, elle et tout ça. Mais ça a été assez vite, c'était vrai que c'était un rapide et tout. Mais après, je me disais, ça va, je gère, ça va. Donc il y a un deuxième, je me dis, bon, je ne suis pas partie pour le premier. Moi, j'ai besoin vraiment d'avoir mes réponses. On n'a pas fini, là. Et donc, j'ai continué, tu vois.
Et elle était d'accord pour faire
ça. Et puis après, à la fin de la journée, je me suis dit, oh là là, mais qu'est-ce que t'as fait? C'est du lourd, là. Hein. T'es folle, toi. Je me suis dit, bon, si ça se trouve, je vais faire des tas de rêves, des tas de cauchemars et tout. Ben, rien du tout. C'était pas du tout un problème. Et alors, donc, j'ai continué à aller la voir et tout. Puis j'étais en voir d'autres. Et puis ça a commencé comme ça.
La grande Gigi va chanter pour Véronique. Moi, nuit et jour, je vends de l'amour. Alors, quiconque veut à qui le tour. J'ai bien le droit de donner de la joie, puisque mon corps, il est à moi. Je m'arrange pour que tous mes charmes percent mes appâts. C'est mon fond de commerce. Dans les faubourgs, je vends de l'amour à tous les hommes des alentours. Lola, Nina. Nina, blonde, classique, un grand décolleté. Lola, chignon échevelé, une guêpière noire, un verre de champagne. Ben, qu'est-ce qu'elle veut, celle-là? Ben, elle rentre chez nous. Quoi? Mais Marilyn, ben, je sais pas, on l'attend. Ça fait une demi-heure qu'on l'attend. Ah ben oui, installez-vous là, dans le fauteuil. Prenez une coupe. On ne sait pas ce qu'on fête. Peut-être le nombre de nos années, hein, Nina ? Conteuse ? Ici, ce n'est pas un conte de fées. Hein. Si tu as perdu ta pantoufle à minuit, c'est que tu es bourrée. Hein. Ça m'énerve. Parfois, il y a des hommes, ils arrivent, souvent, hein, et ils me demandent « Qu'est-ce qui vous ferait plaisir ?» Que tu me payes 3 fois le prix, que tu ne fasses rien et que tu tailles. Attends, il a dit Zeus. Attends, tu vas voir. Tiresias, dis-moi, de l'homme ou de la femme qui jouit le plus fort? Je ne saurais mentir. La femme jouit 9 fois plus fort que l'homme. Ah, Zeus, tu comprends maintenant, Héra. Pourquoi j'ai besoin d'aller 8 fois ailleurs pour jouir autant que toi?
Extrait de Sous les néons du désir, levons le voile sur le plus vieux métier du monde, sur les belles de jour, les filles de joie. C'est pas pour dire, depuis le festival Paroles de conteur de Vassivière, Véronique de Miomandre au micro de Anne Galgoduchon.
Donc, dans un premier temps, tu n'as pas dit je suis conteuse et j'aimerais raconter.
Si. Ah non, j'ai dit. Je suis conteuse et j'ai besoin de savoir. J'ai dit ça au début, mais j'ai pas dit je vais faire un spectacle. Oui, ça, c'était pas mon idée au début.
Mais voilà, je suis conteuse et j'aimerais comprendre.
Ouais.
Donc il y avait quand même cette idée que toi, tu étais intéressée par les histoires.
Oui, voilà. Et donc il y en a certaines à qui je demandais c'est quoi votre plus belle histoire et c'est quoi l'histoire qui vous a fait le plus peur et c'est quelle situation de merde vous êtes trouvée le pire, toi. Donc j'ai posé des questions comme ça, mais c'est vrai qu'elle savait que j'étais conteuse. Donc ça, c'est sûr que ça a sûrement influencé.
Bien sûr.
Tu vois, si j'avais été journaliste, peut-être qu'elle m'aurait pas dit les choses de la même façon. C'est sûr, ça joue. Et moi, et tu vois, parce qu'il y a des gens qui me disaient, ouais, attention, prends un autre nom, tout ça. Et puis moi, je pouvais pas faire ça. Ouais. Tu vois, on disait, elle se met à nu.
Bah oui,
pourquoi
c'est ça.
Moi je ne me mettrais pas à nu, que je me mettrais des tas de.
Ouais.
Tu vois, je leur donnerais pas mon numéro, mon adresse. Ben non, quoi.
Je fais mon truc, je suis moi.
C'est tout, quoi. Tu vois. Et donc, je n'ai pas du tout pris ces précautions-là.
Ça a duré combien de temps, cette période d'entretien avec les
gens? Ça a pris plus ou moins un an.
Plus ou moins un an.
Ouais. Il y avait.
Mais finalement. Des moments où par où te m'en... connaître, tu connais, tu
finis
dans le quartier.
Ah ouais.
Ça devait être marrant.
Ouais, c'était drôle, vraiment drôle. Parce que au début, donc je faisais que dans les carrés, tu vois. Puis après, quand le spectacle a été plus ou moins, je faisais dans les carrés, mais je faisais aussi des interviews de d'escorte
chez moi. Un autre,
Un
autre boulot.
Ouais.
Donc elle venait chez toi.
Ouais. Ah oui, parce que là, c'était le mieux, quoi, tu vois, pour pas, enfin voilà, donc c'est rigolo. Et puis j'ai fait aussi des interviews dans la rue, beaucoup. Et ce qui est rigolo, c'est qu'une fois que le spectacle, si tu veux, une fois que j'avais tous ces témoignages, je faisais des fiches. Donc je mettais tout ce que je voulais absolument dire, tu vois, tout ce qu'elle m'avait dit que je voulais vraiment dire. Et donc j'avais des dizaines de fiches, mais avec ça, faire un spectacle, c'était juste, tu vois.
c'est pas pour dire, la conteuse Angèle Goduchaud rencontre la conteuse Véronique de Miomandre.
C'est un grand, grand problème, hein, la prostitution. Et la prostitution, c'est pas le bon terme, parce qu'en fait, c'est la façon dont plein de femmes se prostituent et les façons ouais. sont différentes. Ouais. Mais en tout cas, ce que je trouve maintenant, après les avoir vues beaucoup, c'est que t'as quand même t'as un écolage, tu vois. Elles ont un écolage. Mmh. Elles s'entraînent entre elles, elles s'épaulent et tout ça. Ouais. T'as des prix fixes, t'as des pratiques. Et t'as une façon de faire.
Tu dis une profession.
Voilà, et donc je dis c'est une profession. Ah, ouais. Et il y a beaucoup de discussions entre elles sur oui, celle-là, elle a descendu les prix, c'est inadmissible. Mmh. Je suis sûre que celle-là, elle fait sans capote, je suis sûre. Tu vois, elles sont très fortes sur le cadre. Mmh. Et donc elles sont très, très rigides sur le cadre. C'est vraiment ouais. important pour elles, c'est leur santé, c'est leur vie, c'est leur métier.
Qu'est-ce que ça t'a... D'abord, est-ce que ça a répondu aux questions que tu te posais depuis si longtemps?
Oui, quand même. Hein. Ouais. 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 Lisa a répondu aussi, je me suis dit, tiens, c'est marrant, parce que comment ça se fait, tu vois, ça c'était ouais. quand même une question. Pourquoi moi, je ne suis pas si choquée?
Ouais.
Tu vois?
Elles t'ont posé, elles, des questions aussi, j'imagine?
Ou pas? Pas beaucoup.
Pas beaucoup.
Non, pas beaucoup. Non. Elles prenaient fort soin de moi, tu vois, quand j'étais dans la rue, tout ça. Vers minuit, elle me disait, on te raccompagne à ta voiture, ça devient dangereux. Mmh. Et je disais, mais vous aussi, c'est dangereux? Non, non, nous, on connaît. Mmh. Toi, pas. Mmh. Elles étaient très bienveillantes, très, très bienveillantes. Mmh. Puis c'est des femmes qui connaissent la vie, alors elles sont truculentes. Mmh. Tu vois, par moments, t'es comme dans un film de Blier, là. Tu vois, c'est oui, extraordinaire, ouais. quoi. Hein. Mmh. Elles ont des réparties. Moi, j'étais pliée, hein.
Ah, et ouais. donc il y a un moment où tu te dis ah non je peux pas il faut avec ce matériau
ouais.
il faut que je raconte
ouais.
ça
ouais. Ouais. et aussi parce que je dis le côté gouaille et tout ça qui est super mais la côté trouille la côté ouais. Que quand il y a un client qui rentre tu sais pas que parfois quand j'allais en voir une tout à coup la rue était fermée il y avait des sirènes il y en avait une qui s'était fait poignarder enfin la violence ouais. la violence est énorme aussi et elle joue avec cette violence elle a quelque part elles sont comme une soupape hein, à la violence mais toute cette violence arrive dans ce quartier et c'est énorme quoi c'est énorme
maintenant ça fait quelques années quand tu tamises ouais. ça est-ce que ça t'a appris quelque chose, y compris sur ton travail de conteuse c'est aussi une fonction particulière, celle-là.
Ouais, de redonner sa voix, ouais.
Et puis de femme aussi. Est-ce ouais. que tu dirais que ça t'a nourri, enrichi
Ah ben oui, je suis sûre. Je pense que ça m'a aussi rééclairer sur l'importance de la sexualité, par exemple.
Ouais.
Tu vois pour moi, en tant que femme, je suis sûre que ça fait partie du pourquoi ça m'intéresse ce sujet, tu vois c'est que c'est quelque chose qui est important pour moi et que peut-être, ou bien j'en étais pas tant consciente, ou bien j'osais pas le dire, ou quoi, tu vois. Et de me dire, ben non, il n'y a pas que la sexualité des hommes, en fait. Il y a la sexualité des femmes. On fait toujours comme si... Mais j'ai rencontré plein de femmes qui faisaient ça et qui le faisaient par plaisir aussi, tu vois. Donc ça, on ne le dit pas. Tu vois, quand on le dit, on dit, oui, ouais, c'est ça, ne va pas généraliser. Ouais. Hein, tu vois, on me rabat tout de suite le caquet. Mais non, j'en connais quand même pas mal. Donc il ne faut pas non plus oublier de dire ça. Il y a des femmes qui savent faire ça.
Et qui, c'est leur don et c'est leur...
Ouais. Donc voilà, je trouve que ça, c'est quelque chose à dire aussi.
Alors donc, tu avais tout ce matériau.
Ouais.
Et j'imagine qu'il fallait de la délicatesse, parce que tu as dit, je vais raconter quelque chose de vous, là.
Ouais. Alors bon, si tu veux, il y avait aussi que... moi, je voulais être sûre que je ne leur volais pas leurs paroles,
ouais, tout ça. Voilà. Il y avait toutes ces questions-là, j'imagine.
Donc, voilà. Bien sûr. Donc j'ai invité plein de femmes à venir voir le spectacle quand il était en construction.
Ouais.
Et il n'y en a pas beaucoup qui sont venues, mais il y en a qui sont venues. Et elles ont pleuré, elles ont ri, et elles m'ont dit, c'est super, tu peux y aller. Et après, quand j'ai commencé à le montrer, Chaque fois, je les invitais et il y en avait de plus en plus qui venaient.
Génial.
Ouais. Et parfois, je ne le savais pas, tu vois, ils ne criaient pas sous les toits. Mais après, quand je sortais de scène, elle me sautait dans les bras, je savais. Et parfois, ça c'était très émouvant, quand j'étais à Liège, j'entendais tout le côté gauche de la salle et elle riait. En fait, elle riait à des endroits que les autres ne riaient pas.
Ah oui.
Et elle riait de façon, on sait bien que c'est vrai ça.
Mais oui, ça
et ça, c'était trop drôle parce que moi, j'étais là, ah, il y en a plein dans la salle là.
C'est super.
Quand votre mère est bouchère et qu'on vous traite de fils de pute, c'est une injure. Mais quand votre mère est pute, c'est juste la vérité.
Fils de bourgeois ou fils de putain, tous les enfants sont comme les tiens. Fils de l'amour, fils d'amourette, tous les enfants sont des poètes. Le même sourire, les mêmes larmes, les mêmes alarmes, les mêmes soupirs. Fils de César ou fils de putain, tous les enfants sont comme le tien.
C'est pas pour dire, l'interview continue, on y découvre le parcours de Véronique de Miomandre et ce chemin singulier qu'elle a choisi, aller à la rencontre de celle qu'on entend si peu, celle à qui l'on tend rarement le micro, les prostituées.
T'as mêlé ces témoignages avec des structures de contes traditionnelles ou bien comment t'as fait ?
Ah ouais, bah ouais, ça c'est... je raconte dans le spectacle trois contes traditionnels.
Ouais.
Qui parlent tous les trois du plaisir, de la prostitution, de tout ça, quoi. Mmh. Donc, voilà.
C'est quoi ?
Y a un conte japonais sur une prostituée, une geisha, et une très, très belle histoire, où quelqu'un veut la racheter. Et c'est une chouette histoire, parce que tu pourrais croire qu'elle est un peu utopique, quoi.
Mmh.
Et alors qu'en fait... quand tu vois, elle quitte souvent la prostitution juste parce qu'il y a quelqu'un qui est amoureux d'elle et qu'elle est amoureux. Tu vois, elle quitte pour se marier. C'est très, très...
C'est
vraiment la majeure partie des...
Des câbles pour quitter.
Ouais, incroyable. Donc, tu vois, donc l'amour vient, en fait. Et l'amour vient et les sort de là. C'est très étrange, ça, pour moi. Tu vois, parce que...
Oui, tu pourrais dire qu'on est déconnecté de cet endroit...
Voilà, tu pourrais dire c'est du sexe, c'est pas de l'amour.
Je mets mon corps à disposition. Et
ouais, voilà, il n'y a pas de sentiment.
Ouais.
C'est pas vrai, en fait. C'est pas vrai du tout. Il y a plein de... En fait, j'ai pris du temps à comprendre ça. Je pense que c'est... En fait, ce n'est pas une relation que sexuelle, c'est une relation. Et dans cette relation, il y a tout. Juste qu'elle est payante. C'est ça qui est différent. Mais ça veut dire qu'aussi que les hommes sont sûrs de la trouver... quasi de la retrouver, donc c'est une grande sécurité pour eux. Et voilà, on peut en parler pendant des heures, parce que ça c'est très très interpellant.
C'est la question du cadre dont tu parlais tout à l'heure, c'est-à-dire que les choses sont délimitées. Et en même temps, il y a toute la vie là-dedans.
Ouais.
À l'intérieur d'un cadre, c'est justement à ça, ça que ça sert.
Ouais. Il y a à peu près un sur trois... des hommes qui ne viennent pas pour le sexe, qui viennent pour parler. C'est énorme.
C'est énorme.
Ouais. Donc il y en a énormément qui se confient, qui ne pourraient pas le faire chez eux. Et parfois aussi parce que leur vie, ils doivent être trop forts chez eux.
Ouais,
ils viennent se livrer à une fille qui, soi-disant, n'est pas leur milieu. Tu vois. Et à qui ils peuvent dire qu'ils sont faibles parce qu'elle ne va pas faire du jugement. Et qui pleure. Tu vois.
Ouais.
Et ça pose aussi des questions par rapport à notre société. On demande trop. Parfois aux hommes qui soient forts, tatati, tatata, tu vois. Et donc ils s'en sortent plus.
Et dans ces contes que tu amènes là, est-ce que tu as eu l'occasion de discuter avec ces femmes de cet ajout de de contes qui sont donc pas leurs histoires. Qu'est-ce qu'elles ont pensé de ça, de cette...
Pour elles, c'était normal. Hein. J'étais une conteuse, il fallait que je raconte. Hein. Donc, vraiment zéro problème.
Ah oui, zéro problème.
Ah, ouais. Vraiment. Hein. Ouais. C'était même étonnant que j'en mette pas plus, tu vois.
Ah oui, d'accord.
Oui. Parce qu'elles pensaient ça, tu vois.
Mais elles ont quand même bien vu la relation entre la fiction et la vie.
D'accord. Ah oui, oui, oui. Elles trouvaient ça chouette. Hein. Ouais. Je trouve que... Il y a une grande permissivité hein, dans la façon dont elle voit les choses, tu vois. Il y avait aussi beaucoup de ma relation avec elle qui était dedans, tu vois.
Bien sûr.
Parce que moi, je suis aussi dans le spectacle. Je raconte la façon dont je les ai rencontrées, je raconte tout ça. Et je trouve ça important, tu vois, de...
Oui, pour la même raison que tu disais, je ne vais pas donner un faux nom.
Voilà, c'est ça.
C'est bizarre. Ouais. Elle se livre et moi, je mettrai des barrières.
Ouais. Donc, il fallait que je sois comme ça, quoi.
Et tu disais donc le théâtre a bien accueilli le conte moins, c'était moins évident.
Ouais, moins évident, plus prudent, plus je sais pas. On n'a pas de public pour ça, enfin plus inquiet, plus.
C'est le côté.
C'est le côté. Qu'est-ce que c'est que ce spectacle? C'est quoi cette bête? C'est du récit de vie en fait.
Ouais.
Et récit de vie pour moi, c'est un travail de conteuse. La conteuse, elle donne sa parole à des gens. Pour moi, c'est à fond un travail de conteuse. Maintenant, ce n'est pas du conte pur.
Ouais.
Mais pour moi, on est des conteurs.
Oui.
Et donc, tu vois. Voilà, mais c'est pas si immédiat.
Il y a quelque chose qui ressemble à du documentaire aussi, on pourrait dire.
Oui, un petit peu. Oui, c'est vrai. Et après, il y a une vraie œuvre dedans. Hein. Il y a un vrai fil rouge, tout ça. Dedans, tu vois.
Ça a été quoi ton fil rouge?
Mais mon fil rouge, c'est qu'il y en a une qui a disparu.
Ah, c'est ça.
Et donc je m'inquiète et que donc je vais voir les autres pour essayer de comprendre qu'est-ce qui s'est passé. Et donc c'est mon argument pour les rencontrer les autres, tu vois. Donc ça, c'était un fil rouge que j'ai vite trouvé. Et la fin, la conclusion de comment je la retrouve et pourquoi. Ça m'est apparu progressivement et je vais pas le dire.
Mais non.
Mais
tu continues à raconter cette
histoire. Ouais. Mais c'est pour moi vraiment le truc crucial, quoi. Vraiment crucial. C'est pour ça ce spectacle. Quand on me dit oui, c'est sur les prostituées, j'ai envie de dire ouais, mais surtout sur les femmes. Ok, c'est des femmes qui se prostituent, mais c'est des femmes. Et ça, c'était une grande révélation pour moi, tu vois. Parce que j'allais interviewer des prostituées, mais j'ai rencontré des femmes.
En fait, t'as rencontré des femmes.
Ouais. Qui sont devenues pour certaines des amies, quoi. Tu vois.
C'est quand même, en effet, c'est un sacré boulot, mais de porter cette parole, c'est aussi... est-ce que tu dirais que la fonction d'une conteuse, ça a quelque chose forcément de politique, dans le sens le plus large du terme, on pourrait dire, mais tu fais pas rien, là, en faisant ça, et en portant cette parole, et en te faisant le transformateur entre deux mondes qui se connaissent pas et
non.
Qui se jugent souvent.
Tu sais, Je pense que c'est plus une parole d'engagement, hein. C'est-à-dire que tu t'engages quelque part à porter une parole qui n'est pas la tienne et dont... Ouais. Mais j'ai un peu du mal avec politique parce que, tu vois, pour moi, la politique, c'est ce qui cherche des solutions, donc qui sait bien ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire et tout ça. Okay. Et moi, j'ai l'impression que plus ce que je fais, ce n'est pas dire ce qu'il faut faire... si la prostitution doit être légalisée, pas, si ceci, si cela. Moi, je peux juste dire, tiens, j'ai rencontré des femmes. Elles font ça comme ci, comme ça. Et après ça, vous, vous décidez tout ce que vous voulez. Et vous faites votre idée avec ce que je dis. Moi, je suis témoin d'un truc. Et j'en fais part. Et je le
donc
fais
c'est de l'engagement,
le plus honnêtement. Ouais. Voilà, tu vois. Mais c'est pour moi pas la politique parce que... parce que je veux pas aller jusque-là, sinon je perds ma liberté.
Une voix qui chantait. À la claire fontaine, m'en allant promener, j'ai trouvé l'eau si belle que je m'y suis baignée. Il y a longtemps que je t'aime, jamais je ne t'oublierai.
La connais.
Vous la connaissez.
Oui,
c'est une vieille chanson.
Oui. Hein.
Et bien alors, elle a regardé par la fenêtre, on voit qui chantait ça. Hein. Et c'était un jardinier. Un jeune jardinier, elle s'est approchée de lui. Il était plutôt beau, avec des cheveux bruns, des grands yeux bleus, des grandes mains, comme ça, comme une paluche. Et puis... elle lui a dit, on se connaît, non? Et il a dit, oui, on a été à l'école ensemble. J'espère bien, en rentrant au service de votre père, vous rencontrer, princesse. Et puis, et à ce moment-là, la porte a grincé et la princesse est entrée. Elle a vu la scène, elle a vu son père sur le trône, le petit jardinier et la rose. Alors elle s'est approchée, elle a pris la rose et elle a dit « Quelle magnifique rose bleue !» Et le roi a dit « Mais ma fille, cette rose n'est pas bleue, elle est blanche !»« Oh non mon père, elle est bleue! Soignez vos yeux mon père !»« Elle est bleue puisque c'est lui que je veux !» Et la princesse...
C'est ça l'amour.
Voilà. S'est mariée avec un petit jardinier qui aimait les roses comme elle. Voilà.
C'est joli.
Merci.
C'est très bien raconté, là.
Oui.
C'est pas pour dire avec Véronique de Miomandre. Ici, avec Dans les hommes, un projet né dans les maisons de retraite. L'idée est de s'adresser à ceux qui ne peuvent plus lire, même en gros caractères. Offrir des histoires à ceux dont les yeux fatiguent, mais dont l'imaginaire reste vif, ouvert et avide de récits. C'est pas pour dire.
Ça sert à quoi, plus largement, tu dirais, au XXIe siècle, où on a tellement de moyens, y compris super techniques, de raconter des histoires, à quoi ça sert? Et en tout cas, qu'est-ce qui fait que on a toujours besoin de quelqu'un qui raconte et de quelqu'un qui écoute, de se rencontrer comme ça à quoi ça tient, à ton avis?
Je crois que, et c'est ça qui m'a tellement touchée, ces femmes, c'est quelque chose de l'ordre du cœur des âmes qui se rencontrent. Ça paraît bête ce que je dis. On vient tous se nourrir autrement. à la parole. Et c'est pour ça qu'il n'y a rien qui est... rien c'est... remplace ça. Rien
cet
peut remplacer
du,
ça.
Du cœur et ouais. du corps qui
et des
qui
ondes. En communication. Moi, je crois. Ouais. Des ondes, je pense ouais. beaucoup à ça. Mais je n'y connais rien. Hein. Mais je veux dire, j'ai jamais... Mais je pense ça, que c'est de cet ordre-là. Et c'est ça que je ressentais quand j'allais. C'était épidermique, c'était même plus profond que ça. Donc voilà.
Bon,
donc, quelle est une autre conversation.
Notre merci.
Ah ben, merci à toi.
On s'arrête.
Ouais.
Allez.
C'était une belle, une belle rencontre.
C'est pas pour dire, mais c'est déjà la fin pour aujourd'hui. Merci à la belle énergie de Véronique de Miomandre qui mêle les mots d'ici et d'ailleurs, tisse des récits où se rencontrent les légendes et les voix du quotidien. Je vous invite à découvrir ces spectacles dont la liste est longue. Si cette émission vous a plu, vous pouvez la partager autour de vous, retrouver toutes les autres également sur le site internet. Elles sont plus de 150 à vous attendre. Vous pouvez nous écrire sur la page Facebook de C'est pas pour dire pour nous donner vos idées, vos envies, vos petits mots. Allez, ciao.
I still have a dream.